Alors, avant de me pencher sur la façon dont la marionnette transforme et transpose tout matériau textuel qui lui est confié, il importe tout d'abord de préciser à contrario de la phrase d'Angelica Liddell qui était choisie comme point de départ de cette journée d'études, qu'il n'y a pas toujours un texte en amont d'un spectacle de marionnettes. Cela importe d'autant plus que les critiques et universitaires considèrent la dramaturgie comme le parent pauvre de nombre de spectacles de marionnettes. Ce constat est hélas vrai. Mais peut parfois emmener certaines et certains à confondre dramaturgie et présence d'un texte dramatique, comme si la présence de celui-ci était garante de la qualité de celle-là, et surtout comme si l'absence d'un texte équivalait à l'absence de dramaturgie. Or, il est impératif de garder à l'esprit à quel point la marionnette peut aisément se passer de texte et de parole pour mieux saisir les enjeux de sa façon singulière d'éclairer et de déplacer le texte lorsqu'elle choisit de s'en emparer. Et si je la rends ici sujet de ce choix, c'est bien parce qu'elle contrarie souvent celui que le ou la metteur en scène avait fait pour elle. Comme l'écrit la professeure et chercheure Dacia N. Posner, les marionnettes sont généralement vues comme des êtres inanimés qui se contentent d'imiter l'intentionnalité humaine et sont dénués de toute agentivité. Or, souligne-t-elle, l'un des refrains les plus connus parmi les marionnettistes est à quel point, au contraire, la marionnette est ingouvernable, je traduis ainsi « unruly », et fait des choses bien différentes de ce que l'on avait imaginé et tenté de lui imposer. En somme, mieux vaut écouter ce qu'elle propose si l'on souhaite interpréter par son entremise. Il me faut donc insister sur la richesse et la diversité des créations qui font appel à la marionnette et se passent de toute forme de texte, que ce soit dans la pièce finale ou dans son processus de réalisation. Des frêles silhouettes photoluminescentes de Félix Boisvert évoluant dans un univers qui n'est que musique, aux apparitions fugaces d'Étienne Saglio, maître de la magie nouvelle, en passant par les ballets aériens de plastique de Fia Ménard, la scène contemporaine regorge de dramaturgie sans texte, qui n'en sont pas moins visuellement et émotionnellement puissantes. Bien des artistes sont attirés par la marionnette précisément pour sa capacité à créer des univers complexes en se passant de mots. Nombre d'artistes élaborent en effet leur dramaturgie en explorant, le plus souvent sous forme d'improvisation, la présence au plateau des personnages, objets et décors, les signes que leur organisation spatiale et leur mouvement envoient au public, et la tension dramatique créée par ces seuls éléments. Cette dramaturgie ne repose alors le plus souvent pas sur une narration, ni sur un déroulement linéaire d'événements, mais sur des associations de signes à relier et interpréter, ce qui a fait dire à certaines et certains que la marionnette était post-dramatique avant même que ce concept soit proposé et analysé par Hans Tisleman. Ces artistes puisent dans ce matériel scénique et l'organisent en fonction des thématiques qui y apparaissent. Le spectacle naît alors de ce processus qui met au jour le propos en même temps que la forme. Dans une dramaturgie visuelle analysée avec finesse par Eric Bass, directeur du Sunglass Theatre, dans son texte « Visual Dramaturgy, Some Thoughts for Puppet Theatre Makers ». Ce dernier rappelle par ailleurs que ce qui fait la matière de ce théâtre, c'est précisément la matière elle-même, celle qui compose la marionnette ou dont celle-ci émerge, parfois pour un temps seulement. Le papier de soie quand on tremble le matin, c'était pas le choix. Ce Ce rapport omniprésent à la matière place le public dans une logique de projection et de sensation qui fait appel au corps de chacune et chacun comme porteur d'expériences physiques et psychiques singulières. La marionnette est ainsi une expérience somatique. Nombre d'artistes de cirque et de chorégraphes ont d'ailleurs reconnu sa capacité à enrichir leur manière de raconter par le geste grâce à ses puissantes résonances métaphoriques, à l'immédiate empathie kinesthésique qu'elle génère et à son potentiel de transformation. Si toutes les propositions scéniques faisant appel à la marionnette ne s'appuient donc pas sur un texte, qu'il soit préexistant ou écrit pour elle au plateau, il me semble néanmoins fort intéressant d'analyser les modalités selon lesquelles la marionnette peut s'emparer de textes très divers, pensés pour le théâtre ou non. Autrement dit, qu'est-ce que la marionnette fait au texte et comment celui-ci lui répond-il en retour ? Nous avons déjà vu l'ancrage de la marionnette dans la matière et la façon dont sa présence joue de cette double nature de personne et de chose, ce que le chercheur et artiste Steve Tillis appelle double vision, car c'est grâce au regard du public que ces deux pôles coexistent pleinement. Or, cette matérialité est signifiante, tout autant que l'esthétique du personnage et que les choix techniques qui lui permettent certains types de mouvements et en omettent d'autres. L'ensemble de ces facteurs transforme la réception du texte. À propos du travail de conception des segments articulation et contrôle des marionnettes, Basil Jones analyse le travail de son collaborateur et mari Adrian Kohler, principal concepteur et constructeur des marionnettes de la Handspring Puppet Company qu'ils ont fondée ensemble à Cape Town en Afrique du Sud. Kohler, écrit Jones, intègre dans chaque personnage la grammaire des signes qu'il sera capable de communiquer. His design built into the puppet the semiotic grammar of which it would be capable. Et en cela, la conception constitue un métascript qui s'écrit évidemment en dialogue avec les actions que le texte induit et celles que la mise en scène appelle. Eric Bass donne quant à lui un bel exemple de la façon dont la matière qui compose la marionnette permet de transposer les enjeux de la pièce. Si le dialogue évoque le fait de voler, est-ce que la marionnette peut être faite de pierre, suggérant ainsi la lourdeur, de façon à ce que nous nous projetions de façon accrue dans son besoin de s'envoler ? Les limitations et les propriétés physiques de la pierre participent donc du sens et poussent le public à investir son attention et son empathie dans les aspirations du personnage. L'artiste française Élise Vigneron utilise avec force cette portée signifiante de la matière lorsqu'elle adapte le roman d'Henri Beauchot « Édipe sur la route ». Dans une scénographie faite d'eau en transformation, de la glace à la vapeur, elle interprète pieds nus une Antigone qui vient en aide à un Édipe lui aussi de glace. Au fil du spectacle, à mesure que le roi déchu se déleste du poids des assignations, il fond et se mêle progressivement à son environnement. La poésie de Beauchot, le magnifique récit de cette errance qui est d'abord une fuite, puis devient une quête d'un rapport renouvelé à la nature et à soi, trouve là une traduction scénique puissante et évocatrice. Dans le cas du théâtre d'objets, cette matérialité signifiante se double de la fonction usuelle de l'objet, c'est-à-dire ce à quoi il sert au quotidien, et de son absence d'unicité, puisqu'il n'est qu'un des exemplaires d'une suite d'objets identiques produits en masse, qu'il s'agisse de bibelots manufacturés, de nourriture ou d'artefacts au rebut. Ces caractéristiques viennent aussi modifier sensiblement la réception du texte et de l'action dramatique. L'usage d'un grain de couscous, choisi parmi des milliers d'autres pour représenter un empereur dans le spectacle de Simon Moers « Sous la neige qui tombe », permet par exemple, sans qu'il soit besoin de rien ajouter, de n'énoncer le caractère arbitraire du pouvoir et comment il crée de façon fictive une hiérarchie entre des vies qui devraient être également considérées. Parce que la marionnette, au travers de ses corporéités multiples et mouvantes, donne à voir avec une certaine immédiateté tout un réseau de signes, le texte peut s'avérer de trop. Comme l'écrit Bass, « Images have the power to stand alone as dramatic storyteller ». Et il importe de ne pas annuler par la redondance la tension dramatique créée entre ce que l'on donne à voir et ce que l'on donne à entendre, entre monstration et narration. Or, bien souvent, cela amène une certaine difficulté dans la collaboration entre marionnettistes et autrices et ou auteurs dramatiques. Comme le disent Francis Monti et Olivier Ducas, les directeurs artistiques de la Pire Espèce à Montréal, l'écriture pour ce type de théâtre se doit d'être réactive, Ce n'est pas de son intériorité que l'auteur part. La marionnette peut... Pardon. Il y a une dimension collective dès l'écriture. Sinon, les marionnettistes peuvent vivre le texte comme une contrainte qui limite leur capacité de création. Mais de leur côté, les auteurs et autrices peuvent se sentir trahis par la nécessité qu'engendre la marionnette de couper de façon parfois assez radicale... Je disais donc et autrice peuvent parfois se sentir trahis par la nécessité qu'engendre la marionnette de couper de façon parfois assez radicale dans leur texte. Qui plus est, outre cette nécessité de réduire le texte pour maintenir une économie juste entre le dire et le montrer, la marionnette amène à décentrer l'attention du texte écrit vers ce que Jones appelle le texte haptique. J'aimerais d'ailleurs faire la proposition suivante, à savoir que non seulement la marionnette est une expérience somatique, comme je disais, mais la marionnette somatise la parole. En effet, lorsque l'on veut que la marionnette parle, c'est-à-dire que le public attribue au personnage marionnettique l'énonciation d'un texte, l'une des règles de base est de synchroniser la voix de l'interprète et le mouvement de la marionnette. C'est ce que l'on appelle phraser le texte. En d'autres termes, pour que la parole puisse être sienne, la marionnette doit la mettre en corps comme un acteur peut la mettre en voix. Il lui faut faire corps du texte. Et parce que sa pensée est incorporée, que son esprit et ce qui le traverse s'expriment d'abord par le mouvement, elle amène le public à devenir ce que Jones appelle des lecteurs et lectrices avides de la sémiotique marionnettique. Face aux chevaux que les artistes de la Handspring Puppet Company ont conçus et réalisés pour la production de la pièce War Horse, les spectateurs et spectatrices s'attachaient au moindre mouvement d'oreille et interprétaient ainsi l'état émotionnel de ces personnages de chevaux par ailleurs muets. Ce travail conjugué de projection et d'interprétation confère au public un pouvoir qui lui est rarement à ce point donné dans le théâtre d'acteurs, au point d'en faire un co-créateur des personnages, voire du sens même de la pièce. Ce décodage du texte visuel a également pour effet que certaines parties du texte énoncé perdent de leur primauté et se retrouvent comme délavées, dans les mots de Jones, bleached out. Cette pensée incarnée peut s'exprimer au travers d'un riche éventail de mouvements et de tonicité. Ce qui importe est de maintenir la vie du personnage, sauf évidemment si l'objet d'une scène est de le mettre à mort. En effet, cette existence qui est donnée d'emblée à l'acteur est toujours performée par la marionnette. Et Jones décrit bien comment cette quête fondamentale, qu'il appelle « our narrative », peut, bien que souterraine, devenir centrale au point de supplanter les autres enjeux portés par le texte. La marionnette peut, à tout moment, cesser de vivre de façon vraisemblable aux yeux du public. Chaque instant qu'elle passe en scène est une véritable lutte pour la survie.
Je parle de quoi ? De ta lutte pour la survie et du micro-mouvement. Tu pouvais pas demander ça à la chauve, plutôt ? Non, je suis sûre que tu vas être beaucoup plus convaincant. Attends, regarde. C'est cette partie-là. C'est fou universitaire ton affaire. Moi je préférais 2h14 de David Paquet. Ouais, je suis sûre que tu vas rendre ça super intéressant. C'est cet aspect de travail de la marionnette, ce combat pour demeurer vivante, qui peut trouver un écho immédiat et profond chez le public et reléguer le reste, par exemple le texte, au second plan. C'est ce qui fait que de petits gestes quotidiens, des micro-mouvements tels que la respiration, par exemple, peut prendre une dimension véritablement épique. Tu veux que je fasse une démonstration de micro-mouvements, c'est ça hein? Oui, ce serait super, si tu comprends, si moi je respire en scène, ça n'intéresse personne. J'ai repensé à un truc. Oui. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Ben, l'image ici, c'est moi. C'est exactement ça. Merci. Quoi? Attends. Non. Attends. Je peux lire des trucs encore. Attends. Je peux continuer. La marionnette. Et je cite encore Jones. L'incarnation manifeste de notre combat pour vivre, être humain, agir. C'est exactement ça. Merci. T'as exprimé ça vraiment mieux que j'aurais pu le faire. Alors tu vas me ranger, hein, c'est ça. Tu me sors plus très souvent, je trouve. C'est que j'enseigne, je suis désolée. Ah, attends, quoi? Est-ce que tu peux me mettre plus loin de la fille chauve avec son couteau, là? Elle me fiche un peu la trouille. Ok, je vais essayer, c'est un peu trop. Cette action dramatique est ce qui fait la spécificité de la présence et de la parole marionnettique et ce qui rend la marionnette en grande partie autrice du texte. On peut même aller plus loin et reprendre la proposition de Robert Smiles, le directeur artistique du Mom Puppet Theatre à Philadelphie, dans la mesure où la marionnette est un outil abstrait et sémiotique qui représente une idée dans le monde réel. Elle n'est aucunement la même chose qu'un acteur ou une actrice interprétant le texte ou une action dérivée d'un texte, parce que la marionnette est le texte. De plus, et je finirai sur cette idée, les spectacles donnent désormais majoritairement à voir la coprésence du personnage marionnettique et de l'interprète ou des interprètes qui lui donne vie et l'anime.
Ce faisant, ces spectacles inscrivent la parole dans une structure enchâssée qui transforme le statut même de l'énonciation. la marionnette est, de façon visible, agit par d'autres. On lui parle au travers.
Mais comment ça, on lui parle au travers? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux dire que ce n'est pas moi qui parle?
Disons que ça laisse l'espace d'en douter.
Donc ma pensée ne serait pas ma pensée. Mais alors, qui a autorité ici? Qui êtes-vous en train d'écouter?
Êtes-vous encore en train d'écouter?
Moi, je pense que c'est moi qui les écoute. Oui, en effet. Mais par exemple, ta main.
Oui, qu'est-ce qu'elle a, ma main?
Eh bien... Oh! Quoi? Tu veux dire que ce n'est pas ma main? Ce serait... Ta main?
Eh bien, disons qu'on la partage. Tu vois, comme la parole, finalement.
Mais ça c'est formidable. C'est formidable parce que ça laisse un magnifique et fantastique espace d'interprétation au public, tu comprends? C'est comme un doute fondamental sur... Mais je ne veux pas, moi, laisser de place au doute. Je parle, donc je suis. C'est trop dur. Ma condition est tragique. Adieu.
Nous êtes mis à vue, du moteur de la parole ainsi que son éventuelle dissociation du moteur du mouvement, par exemple au moyen d'une récitante ou d'un récitant qui donne la voix. Fait de la marionnette un outil privilégié pour interroger l'autorité de la parole scénique dans son rapport au public. Nous avons vu de façon évidemment rapide et non exhaustive comment la marionnette peut transformer sensiblement l'appréhension que le public peut avoir d'un texte, y compris celui de cette communication. Nous avons fait de... Voilà, je finis donc en conclusion. Les propositions marionnettiques contemporaines ont généralement pour point commun, selon des modalités toujours différentes et singulières, de faire voler en éclats la centralité du texte théâtral, et son statut de détenteur du sens. Toutes les composantes du spectacle peuvent alors agir à égalité et devenir des signes qu'il appartient en grande partie au public de relier et d'interpréter, et ce, de façon plus radicale encore que dans le théâtre d'acteurs post-dramatiques. Merci.